Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes bien sur l'émission Les Neveux Drônés, Chemin de Pensée. Et nous continuons à travailler avec Descartes sur le discours de la méthode et la quatrième partie du discours de la méthode. Vous êtes en compagnie de Nazim Fattès et Sylvain Contasso-Vivier. Alors, Nicolas Lemoine n'est pas là cette semaine non plus, et j'espère qu'il nous rejoindra la semaine prochaine. Alors, Nicolas nous manque parce que c'est d'habitude lui qui fait les résumés des épisodes précédents. Alors, pour dire les choses en bref, nous avions abordé ce sommet de la pensée métaphysique qui se trouve au quatrième, donc dans la quatrième partie du discours de la méthode, où il était question de cette phrase qui a tellement fait couler d'encre, « Je pense, donc je suis ». Donc nous avions commencé à nous interroger sur cette phrase, non pas pour dire que nous avions l'interprétation définitive de ce que Descartes entend par là et comment ça se situe dans son œuvre, mais au contraire de dire, pour nous qui ne sommes pas des professionnels de la pensée, ce que la chose nous invite à penser, ce qu'elle nous inspire. Voilà. Et c'est le conseil qu'on donne aussi aux lecteurs qui pourraient être impressionnés, se dire « Ouh là là, des mots comme métaphysique, comme substance paraissent trop difficiles », de dire « Non, il faut avoir une certaine facilité, se décomplexer, une aisance et dialoguer avec Descartes, se dire que s'il a écrit ces textes, c'est pour être lu et compris de chacun. Il n'y a pas de difficulté majeure à comprendre Descartes. Il n'y a qu'un travail patient d'habituation et d'interprétation que nous essayons de faire avec vous, auditeurs, et nous cheminons. Alors, Sylvain, est-ce que tu souhaites qu'on se replonge dans ce texte en lisant peut-être soit relire des parties qu'on a déjà lues, soit reprendre une nouvelle lecture?
Alors effectivement, donc la semaine dernière, nous avions donc parlé de cette fameuse phrase, hein, « Je pense, donc je suis ». Donc on avait rappelé le contexte quand même important, hein, de la démarche de René Descartes, hein, qui consiste vraiment à essayer d'isoler un élément de vérité qui soit absolu, qu'on ne puisse pas remettre en cause.
Certain,
c'est qu'il vraiment certain. Voilà, qu'il soit certain. D'ailleurs, il parle de certitude parce que évidemment, pour arriver à construire ce qu'essaye de faire René Descartes, c'est vraiment de construire un système de connaissances qui soit toujours basé sur des fondements solides. Donc voilà un petit peu le contexte. Et alors donc on en était arrivé à un moment donné où Descartes se dit qu'il se rend compte qu'il est un être pensant. Il appelle ça substance pensante. Donc là, on va repartir un petit peu de ce passage parce qu'il y a encore des choses à dire sur ce passage qui peuvent être intéressantes. Je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de penser, et qui, pour être, n'a besoin d'aucun lieu, ni ne dépend d'aucune chose matérielle. En sorte que ce moi, c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps, et même qu'elle est plus aisée à connaître que lui, et qu'encore qu'il ne fût point, elle ne laisserait pas d'être tout ce qu'elle est. Donc voilà le passage qui termine justement cette discussion sur cette discussion sur la substance pensante. Alors personnellement, moi, j'ai un petit peu de mal avec ce passage-là, hein, parce que là il fait une distinction très forte, vraiment importante, entre l'âme, ce qu'il appelle l'âme, hein, donc la pensée en fait, la substance pensante, et le corps qui la supporte entre guillemets, enfin le corps humain. Mais évidemment. Il y a quelque chose, enfin, moi je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose d'un peu arbitraire là, parce que, d'ailleurs, si on regarde un petit peu l'évolution des sciences, justement des connaissances, on s'aperçoit que cette séparation dont il parle, physiquement parlant, elle est pas du tout évidente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune preuve, donc justement, aucune certitude sur le fait que la pensée ne soit pas effectivement tout simplement le produit du cerveau ou même de l'entièreté du corps, pourquoi pas ? Parce que le cerveau, au final, ne se réduit pas forcément uniquement à la tête, hein, d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même radical. Ce qu'il dit là, c'est quand même radical et on a l'impression qu'il y a un peu d'arbitraire. Alors, je sais pas, Nazim, ce que tu en penses,
ce qu'on peut en dire. On peut reprendre ce que tu dis quand tu dis le cerveau. Entre guillemets, tu as utilisé cette expression comme si le cerveau secrète la pensée, comme un organe qui secrète la bile, le foie secrète de la bile. Tu as l'impression que dans ton raisonnement, tu dis le cerveau secrète la pensée, la pensée est une émanation du cerveau. C'est évidemment peut-être la vision prédominante du 21e siècle, mais on peut elle aussi la questionner. Sérieusement. Par exemple.
Tout à fait. D'ailleurs, j'ai pas dit qu'il y avait une preuve de ça non plus. J'ai dit, il n'y a pas de preuve que c'est pareil.
C'est l'un et il n'y a pas de preuve que c'est l'autre. Voilà. Alors, effectivement, on est tout de suite un peu dans l'embarras. Parce qu'on est bien en peine de se déterminer si une telle séparation âme-corps, on peut la faire ou on ne peut pas la faire. Encore une fois, si on en revient à ce qui fait la force de Descartes, sur quoi il s'appuie, on peut revenir aux mathématiques. Est-ce que toi, qui es un scientifique de métier, quand tu considères les nombres, est-ce que tu considères pas d'une certaine façon qu'ils ont leur existence propre et qu'ils ne sont pas les fruits de ta pensée en tant que chose matérielle? Je veux dire, tu ne dis pas que l'ensemble des nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et à l'infini, c'est toi qui es en train de penser ça par ton cerveau qui connecte par des processus électrophysiques et chimiques, non ?
C'est clair. Enfin, c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a une sorte d'existence immatérielle, justement, qui vient de la pensée. En fait, c'est parce que l'être humain pense à ces nombres quelque part qui leur donne une existence, mais ils n'ont pas d'existence matérielle en tant que telle. Hein, effectivement. Par contre, après, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les nombres existeraient si l'humanité n'existait pas ?
Oui.
Par exemple.
Oui, oui, oui. Y a-t-il des vérités éternelles ?
Voilà, par exemple.
Y a-t-il des choses, par exemple ?
Donc, c'est assez complexe.
Exactement.
Ce qui est assez intéressant, par contre, c'est que entre ces objets qui sont immatériels et justement le monde sensible, c'est-à-dire ce que l'on peut voir, toucher, sentir avec nos sens, on peut faire un lien. Et c'est là la force, quelque part, de la pensée humaine, c'est qu'on arrive, en ayant des réflexions et des pensées immatérielles, enfin, sur des choses immatérielles, on peut les connecter à quelque chose de concret et en faire quelque chose dans notre univers concret sensible, si on veut.
Et ce qui est... Je ne sais pas si tu t'es amusé à faire cette expérience de Descartes qui dit de dire « Imaginons qu'il n'y a pas de substance matérielle. » En fait, j'ai l'impression qu'il dit... vous ne sortirez pas de ma forteresse, quoi, en fait. La forteresse dans laquelle il se réfugie, c'est celle-ci, c'est de dire il y a quelque chose d'indubitable, d'incompressible, qui est cette substance pensante. Et par le mot substance, il reprend finalement un certain héritage de la scolastique, à savoir qu'il y a la pensée en tant que telle, et que chaque humain, à chaque fois qu'il pense, se rapporte à cette pensée, de façon diverse et variée, mais... Elle existe, la pensée, elle est là, et on peut pas l'enlever. Descartes, bizarrement, enfin pas bizarrement, il serait contre le fait qu'elle puisse être ramenée uniquement à des mécanismes, donc en matière de géométrie et de physique.
Ouais, enfin c'est quand même compliqué parce que effectivement on peut, enfin l'idée de la pensée, elle existe. Si vous voulez, la pensée existe, l'idée de la pensée, le concept. Concept, je pense que tu vas pas aimer le mot, mais en tout cas l'idée, c'est peut-être mieux, plus précis, de la pensée, clairement existe par lui-même sans avoir besoin d'un corps ou quoi que ce soit, puisqu'on a cette idée de la pensée. Donc on peut la conceptualiser.
Oui.
Par contre, effectivement, après c'est le support d'existence de cette pensée.
Et Descartes
donc
ça, n'a jamais dit.
Descartes, ce qui est marrant, c'est qu'il lui, il tranche tout de suite la question.
Il tranche.
Dit, ouais, voilà, moi je pense et je considère que cette pensée est indépendante de mon corps.
Exact. Elle tranche de manière définitive, de manière radicale, mais il ne faut surtout pas, déjà, on va faire une petite précision pour nos auditeurs, il ne faut surtout pas penser qu'il le nie, qu'il méprise, ou quoi, le corps. Il ne faut pas oublier que le discours de la méthode, il dit la meilleure chose qu'on puisse attendre, une des meilleures choses qu'on puisse attendre de la méthode, c'est les progrès en médecine.
Oui, tout à fait. Oui. Alors, se rendre comme maître et possesseur. De...
Alors, on y viendra, maître et possesseur de la nature, évidemment, qui va être une clé aussi. Mais il y a quelque chose, Descartes est très attentif au fait que connaître les lois de l'univers, c'est nous rendre, nous, moins sujets aux aléas de l'univers, donc plus à même de vivre bien.
Tout à fait.
Plus longtemps. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'allongement du temps de vie, c'est un résultat, c'est un des fruits.
Complètement, oui, il s'inscrit dans quelque chose de complètement pragmatique, même de...
Très pragmatique. C'est marrant, quand on lit la correspondance de Descartes, donc la personne avec laquelle il a le plus correspondu et qui avait sa confiance, c'était le père Mersenne. Et à un moment, le père Mersenne lui dit qu'il est atteint d'une maladie dont j'ai oublié le nom, enfin... qui doit peut-être pas être très grave, et il lui dit, attendez, j'espère que je vais trouver le remède, j'espère que vous allez patienter jusqu'à ce que je trouve la façon de vous guérir de manière indubitable et certaine. Donc, il avait vraiment espoir, effectivement, d'arriver au corps. Donc, ne surtout pas faire de Descartes cette espèce de philosophe de tour d'ivoire qui n'a pas considération pour le corps humain, c'est tout l'inverse, hein, d'accord?
Ah non, non, c'est clair.
Donc ça, c'est juste une petite précision.
C'est important d'ailleurs de préciser ça. Voilà. Simplement, ce qui est surprenant par rapport justement à sa démarche même, c'est de considérer un fait comme ça, sans finalement l'adosser à une certitude, quelque part, ou l'adosser à quelque chose qui ne puisse pas être mis en cause. C'est ça qui est assez surprenant pour le coup. Donc c'est vrai que bon, ce passage-là est particulièrement un petit peu difficile.
Il est difficile, et toute la difficulté représente, à mon avis, dans ce qu'on appelle substance, finalement. On n'est plus en rapport avec cet héritage scolastique de substance. Donc on a dit qu'il était un mot latin qui traduit « hypokaimenon ». Pour voir ça, peut-être, on va laisser ce mot-là de côté temporairement, mais ça veut dire qu'il faut peut-être remonter au grec, et peut-être à la philosophie du Moyen-Âge, pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot « substance », finalement. Et peut-être pour donner aussi des points de repère aux auditeurs, on peut penser que « substance », c'est le contraire, on entend dans « substance » tout de suite, le contraire de quelque chose qui ne cesse de varier. Finalement, nous, on est là, on est soumis aux aléas de la vie de tous les jours, on voit des gens qui vieillissent, qui meurent, qui nous quittent, mais est-ce qu'à travers ces choses qui ne cessent de changer devant nous, il n'y a pas quelque chose qui toujours se maintient. Et je crois que c'est ça qui est chez Descartes. Donc, il y a une substance matérielle chez Descartes, une substance qui dit être étendue, c'est-à-dire mon morceau de cire, dans les méditations métaphysiques, il parlera d'un morceau de cire. Le morceau de cire, il peut être dur, rendre un son. Il peut être mou si je le chauffe. Il peut rendre une odeur, il peut être inodore, il change. Mais quelque chose, néanmoins, se maintient de ce morceau de cire.
Le fait que ce soit un morceau de cire, sa nature de cire, peut-être.
Sa nature de cire, il y a quelque chose comme ça qui va se maintenir. Et finalement, l'histoire de la physique, l'histoire des sciences, ne va être toujours d'interroger ce concept de matière, de substance. Et jusqu'au point d'arriver à cette équation E égale MC2. E égale MC2, c'est quoi? C'est que même la matière elle-même va pouvoir être transformée en énergie. Donc, on arrive, à force de méditer cette idée de substance, à voir que même l'atome, le bout de matière lui-même est transformable en énergie. C'est remarquable. C'est vraiment remarquable. Et c'est pour ça qu'on dit être neveu de René, ça signifie que, avec cette méditation qui a l'air au début métaphysique, ça nous amène de fil en aiguille même à connaître la nature nucléaire, finalement, de la matière.
Ouais,
voilà. Ce qui est peut-être un peu dommage, c'est qu'on a beaucoup interrogé la substance matérielle. Quant à l'autre substance, puisqu'on n'est pas à l'aise, on l'a peut-être un peu mise de côté. Alors, peut-être qu'on va y réfléchir dans la suite. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, je vous propose une petite pause musicale avec un extrait du Dixit Dominus de Handel. Et cet extrait est le Concasabit.
Bye.
Donc c'était un extrait d'un psaume mis en musique par Handel et chanté par l'ensemble Souvigny. Dixit Dominus a été notamment chanté par l'ensemble Nancy Ducal. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc nous étions en train de discuter de cette question qui nous pose un certain embarras, de séparation entre l'âme et le corps, ou pour reprendre le langage philosophique, entre substance étendue et ou substance matérielle et l'âme dont il faut substance voir pensante, substance pensante, âme, qu'est-ce qu'elle signifie chez Descartes et quelles sont les qualités finalement qu'on peut reconnaître à cette substance pensante ou âme. Alors nous pouvons peut-être poursuivre la lecture en espérant que de cette lecture, quelques éclaircissements vont surgir.
Oui, effectivement. Alors éclaircissement, on va voir justement, parce que là on voit déjà, il s'attaque à des choses effectivement très métaphysiques pour le coup, hein, parce que déjà il commence à nous dire que l'âme est séparée du corps, donc ce qui est déjà important. Et là maintenant il va enchaîner, on va poursuivre sur carrément l'idée de Dieu, un petit peu. Donc, je vais vous lire un petit le passage hein, qui suit d'ailleurs au niveau de la quatrième partie. Ensuite de quoi, faisant réflexion sur ce que je doutais et que, par conséquent, mon être n'était pas tout parfait, car je voyais clairement que c'était une plus grande perfection de connaître que de douter, je m'avisais de chercher d'où j'avais appris à penser à quelque chose de plus parfait que je n'étais. Et je connus évidemment que ce devait être de quelque nature qui fût en effet plus parfaite. Donc voilà, hein, ça c'est le petit passage, on lira probablement la suite après. Ce qui est intéressant là déjà, c'est cette notion de perfection, hein, le fait que Descartes s'interroge sur le fait que il sent bien en fait quelque part que il connaît des choses mais il connaît pas tout déjà.
Alors il dit mon être n'était pas tout parfait.
Voilà. Donc il a cette notion de ne pas être parfait et il définit ça par le fait que en tout cas il définit ça, la perfection par le fait de connaître ou douter.
Et il dit bien je voyais clairement que c'était une plus grande perfection de connaître que de douter. Alors souvent les gens que j'ai entendu avec qui j'ai discuté de ça, disent « mais d'où il le sait finalement que de connaître ?» Mais ça, je pense que c'est typiquement une évidence. C'est une évidence. Si vous savez comment vous rendre à la boulangerie, c'est quand même mieux que si vous savez pas comment vous y rendre et vous avez des doutes.
Voilà. C'est ça. C'est,
ouais. Je crois que Descartes, ici, est dans le registre de l'évidence. Pour le coup, il y a un côté réflexif puisqu'il applique sa propre méthode dans son cheminement. Mais évidemment, parfois, peut-être qu'il vaut mieux ne pas tout savoir. On peut s'interroger si c'est toujours mieux de tout savoir aussi. Mais on va laisser cette question-là de côté.
Et là, on peut comprendre de ce qu'écrit René Descartes que pour lui, c'est toujours mieux de savoir.
C'est toujours mieux de savoir. C'est toujours une plus grande perfection que de douter. Juste une petite question. Si je connais l'heure de ma mort, est-ce que c'est toujours mieux de la connaître que de pas la connaître? C'est une petite chose. Moi, si Descartes était là, je lui demanderais ça. Voilà.
Oui, effectivement, ça pourrait être une question intéressante. Alors, ce qui est un autre élément qui est intéressant également, c'est cette idée que chez Descartes, hein, qu'il n'a pas pu avoir cette idée lui-même. Ça, c'est vraiment surprenant aussi, parce qu'il nous dit que finalement, comment avait-il pu se rendre compte qu'il n'était pas parfait et que il y avait cette idée de perfection hein, qui le saisissait. Et ce qu'il nous dit, c'est que ça venait forcément de quelque chose d'extérieur à lui, d'un être plus parfait. Et c'est comme ça qu'il va en fait, cheminer vers l'évidence de l'existence d'un être supérieur, hein, et qu'il va appeler Dieu, en fait. Alors, si on continue la lecture, hein, d'ailleurs, on va pouvoir lire le passage. Donc, pour ce qui est des pensées que j'avais de plusieurs autres choses hors de moi, comme du ciel, de la terre, de la lumière, de la chaleur et de mille autres, je n'étais point tant en peine de savoir d'où elles venaient, à cause que ne remarquant rien en elles qui me sembla les rendre supérieures à moi, je pouvais croire que si elles étaient vraies, c'était des dépendances de ma nature, en tant qu'elles avaient quelques perfections. Et si elles ne l'étaient pas, que je les tenais du néant, c'est-à-dire qu'elles étaient en moi pour ce que j'avais du défaut.
C'est compliqué.
Donc, ce passage est un peu compliqué.
Oui, c'est un peu compliqué.
Mais globalement, ce qu'il nous dit, c'est que les choses qu'il voit, les différentes choses dont il se rend compte, qu'il peut concevoir, si il les conçoit, c'est parce que quelque part ils ont une sorte d'infériorité dans la perfection.
Oui. Ça, je comprends pas bien ce qu'il raconte avec ces histoires de supérieur, inférieur. On comprend pas. Moi, j'avoue que je suis mal à l'aise,
c'est pas ça.
Cette infériorité, supériorité. Ça, c'est comme s'il avait une espèce de gradation dans la perfection.
C'est ce qu'il essaie de faire. Oui. Il essaie de mettre une sorte d'ordre.
Oui, d'ordre.
Une sorte d'ordre global où on ne sait pas s'il est vraiment global d'ailleurs, mais un ordre en tout cas sur les choses. Par rapport à cette perfection.
Donc il continue à agir en tant que mathématicien.
Ouais. Et l'idée importante d'ailleurs qui est sous-jacente là, c'est que rien ne peut arriver du néant. C'est-à-dire que le néant ne crée rien et il peut rien y avoir qui vient du néant. Donc forcément, si on a quelque chose, c'est que ça vient de quelque chose qui est déjà une existence avant en fait. Hein.
Et ça c'est intéressant.
Une sorte d'imbrication.
Ça, c'est intéressant.
Une imbrication comme ça des existences.
Alors le thème du néant, c'est un thème éminemment philosophique. Ouais. Ça c'est quelque chose. On est en pleine métaphysique évidemment quand on parle du néant, mais tout être humain finalement en rapport à ça. C'est-à-dire toujours, je peux me demander, même le plus matérialiste des êtres humains se dit, quand je vais mourir, est-ce que je vais me retrouver dans le néant? Qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, étant dépourvu face à ces questions-là, on peut dire que chacun de nous, on peut faire le choix de ne pas y réfléchir. Mais dès qu'on est en présence d'un philosophe, on se confronte à ces questions-là. C'est ça qui est remarquable.
Tout à fait. Alors, si on continue justement donc le cheminement de René Descartes, hein, mais ce ne pouvait être le même de l'idée d'un être plus parfait que le mien, car de la tenir du néant, c'était chose manifestement impossible. Et pour ce qu'il n'y a pas moins de répugnance que le plus parfait soit une suite et une dépendance du moins parfait, qu'il n'y en a que de rien procède quelque chose, je ne la pouvais tenir non plus de moi-même. D'une façon qu'il restait qu'elle eût été mise en moi par une nature qui fût véritablement plus parfaite que je n'étais. Donc voilà, je m'arrête là.
Et donc, tu peux poursuivre parce que cette nature plus parfaite, il va l'appeler Dieu. Hein, par la
oui,
suite, voilà.
Alors effectivement, si on va jusqu'au bout, je reprends. Hein. Donc, qui fût véritablement plus parfaite que je n'étais, et même qui eût en soi toutes les perfections dont je pouvais avoir quelque idée. C'est-à-dire, pour m'expliquer en un mot, qui fut Dieu.
Donc finalement, ce Dieu de Descartes qui apparaît ici, et c'est ce que va lui reprocher âprement avec un long combat Pascal, ce n'est pas du tout un Dieu révélé.
Non, en fait c'est intéressant parce que justement on parlait de l'ordre tout à l'heure, et en fait c'est par rapport à cette notion d'ordre qu'il a dans la perfection qu'il en déduit l'existence de Dieu, c'est-à-dire que lui-même se sent bien qu'il n'est pas le maximum ou le supérieur de la perfection.
Oui.
Il n'est pas l'être le plus parfait. Il a cette notion-là, enfin cette sensation-là en tout cas, ou cette évidence-là, puisque c'est plutôt une évidence pour lui. Donc, vu qu'il n'a pas cette évidence-là, il se dit, il y a forcément un être plus parfait qui existe.
Oui.
Mais c'est encore une fois une idée de la perfection qui n'impose pas forcément une existence par rapport à une instance, on va dire.
Eh bien, là, donc ça, Sylvain, je voudrais juste te questionner. Tu dis, il y a une idée qui n'impose pas existence. Voilà. Pour le coup, on est face à un dilemme.
Oui.
Par exemple, l'humanité. Est-ce que l'humanité, ça existe ou ça n'existe pas?
Alors oui, l'humanité existe. Mais après, ça dépend comment...
Mais l'humanité, bien des gens vont dire que c'est une idée, c'est une abstraction.
Mais c'est une idée, effectivement.
Pour reprendre ce que vont dire plusieurs autres auteurs bien après, l'humanité n'est pas une chose là-devant, pour reprendre le vocabulaire de Heidegger. C'est pas quelque chose que tu peux toucher, comme le dira Heidegger, que tu peux poser sur une table. Ce n'est pas un étang dont le mode d'existence est d'être là devant, d'accord? Donc, ça veut dire que si je considère que l'humanité est, son mode d'existence, il est quoi? Il est où? Elle est où, cette humanité, quand elle est?
En fait, elle est dans l'idée qu'on se fait de l'humanité.
Mais ça veut rien dire, parce que tu viens juste de mettre un mot derrière les choses que personne ne pourra instancier, justement. Tu pourras pas dire, je sais où est l'idée d'humanité. D'ailleurs, Auguste Comte fera un temple de l'humanité bien plus tard pour la matérialiser, cette idée. Ça, c'est intéressant. On pourra en reparler dans nos pérégrinations métaphysiques d'Auguste Comte. Mais tu vois que ça a quelque chose de redoutable. Nier que parce qu'une chose est une idée, elle n'a pas d'existence propre.
Non, c'est pas tout à fait ça. C'était plutôt de faire la distinction entre l'idée d'une chose et son expression matérielle, à la limite.
Mais c'est ça qui est remarquable. C'est ça qui est remarquable chez ces penseurs qui sont héritiers de la scolastique. C'est que pour eux, si quelque chose est dans le monde des idées, ça va se refléter dans le monde réel. Par exemple, l'humanité. Si l'humanité est dans le monde des idées, ce que Platon appelle le monde des idées, elle se reflète dans chacun d'entre nous. Et je ne peux pas nier cette chose. Et quand ce que je fais ça, je m'expose à un grand danger.
D'ailleurs, justement, c'est intéressant parce que là, Descartes est dans la lignée de Platon, pour le coup. Là, il est en accord avec lui, puisque Platon, à la limite, il s'arrête au monde des idées. Il s'intéresse pas vraiment au monde sensible. Donc au final, pour lui, l'existence, c'est au niveau des idées. Alors que, bon, avec Descartes, ça va être un peu différent, parce qu'il va quand même avoir une implication, enfin plutôt des liens avec le monde sensible, pour le coup. Mais il y a quand même, on voit dans les fondements de départ, il y a quand même un lien fort entre les deux. Il n'est pas en désaccord avec Platon, finalement, Descartes là-dessus. Là où il y a une différence, ça va être évidemment sur la méthodologie, justement la méthode, pour le coup, d'arriver à la vérité, d'arriver aux idées, quelque part.
Alors c'est ça qui va nous intéresser peut-être dans la suite, c'est... Il y a beaucoup à dire sur cette partie-là.
C'est clair.
Mais nous allons faire le travail de suivre Descartes, de le pousser lui aussi dans ses derniers retranchements. Et on va donc supposer qu'on a bien compris ce qu'il a dit et d'aller dans son sens et de voir comment il va y avoir un changement dans son exposé et comment il va passer de ce monde, finalement, que nous appelons monde des idées à la suite de Platon, au monde métaphysique, de cette idée de séparation de l'âme et du corps, de substance pensante et de substance étendue, vers ce qui va mener à une connaissance tout à fait concrète, la médecine, le corps humain, et ainsi de suite. Voilà. Donc on propose à nos auditeurs de continuer la méditation de Descartes en lisant les livres 5 et 6 du Discours de la méthode, et nous nous retrouverons la semaine prochaine en compagnie de Nicolas Lemoine, je l'espère, de Sylvain Contasso-Vivier et de moi-même pour un prochain épisode des Neveux de René.